c'est l'heure des enjeux internationaux. Avec vous, Julie Gacon, bonjour.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Au programme ce matin, Julie, l'Union européenne choisira-t-elle un protectionnisme vaccinal ?
Oui, ce sera l'une des questions, si ce n'est la question sur laquelle travailleront jeudi les dirigeants des 27 lors du sommet européen, car les chiffres des exportations de vaccins produits sur le continent européen ont été dévoilés la semaine dernière et dans l'ensemble, tout laboratoire confondu, eh bien le tiers des doses fabriquées en Europe part à l'export. Ursula von der Leyen en était furieuse et comme cela s'est sorti de retard de livraison, eh bien, la présidente de la Commission a menacé d'interdire les livraisons aux pays hors UE qui ne rendent pas l'appareil. Bonjour Nathalie Ernoux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheuse et co-directrice de l'Observatoire de la Santé à l'IRIS. Alors, les retards de livraison, c'est principalement le fait, on le sait, du laboratoire suédo-britannique AstraZeneca. Au premier trimestre, il a fourni à l'Union européenne 30 millions de doses contre les 90 millions prévus. Pour qu'on comprenne bien, est-ce que ça veut dire que les 60 millions de doses manquantes n'ont à ce jour toujours pas été produites ou qu'elles ont toutes été exportées vers d'autres pays ?
Alors c'est difficile à dire. A priori, un petit peu des deux. Une partie de ces doses ont été exportées, puisque l'Europe réexporte et exporte des doses qui sont fabriquées sur son territoire. En revanche, plusieurs sites de production, et en particulier un site de production en Europe, notamment en Belgique, a eu des problèmes de rendement, j'ai envie de dire, sur la production, ce qui fait que il y a un certain nombre de retards qui ont lieu directement sur le territoire européen.
Voilà, on sait que beaucoup des doses aussi ont été, pour celles qui ont quitté le territoire, ont été livrées au Royaume-Uni avec cet accord de financement de la recherche signé par Oxford avec le gouvernement britannique en janvier-février 2021, donc avant même que le Covid n'ait encore officiellement, en tout cas, frappé l'Europe. Donc la priorité a été accordée au Royaume-Uni, mais les doses d'AstraZeneca, dont les États-Unis cette fois font des stocks aujourd'hui, 30 millions de doses stockées alors que le vaccin n'a pas été homologué par les autorités sanitaires, est-ce qu'elles ont aussi été produites en Europe ?
Alors elles ont été produites en partie, alors c'est assez compliqué, mais en partie produites aux États-Unis, réexportées vers l'Europe, puis renvoyées vers les États-Unis, parce qu'il y a différents processus de fabrication en fait qui sont à l'œuvre. Et effectivement, vous avez en fait il y a deux choses. Donc l'Angleterre d'un côté qui elle produit sur son propre territoire, il y a deux usines en Angleterre et qui n'exporte pas, en tout cas qui est accusée de se servir et de bloquer les exportations. Et les États-Unis qui sont en train de stocker des doses, effectivement, alors que le vaccin n'est pas enregistré. Je sais qu'il y a eu des demandes du directeur d'AstraZeneca France pour essayer de récupérer un certain nombre de doses aux États-Unis, en tout cas du stock États-Unis, et ceci n'a pas été possible pour l'instant. Il a reçu un non assez ferme.
Alors que les États-Unis, eux, ont à disposition les vaccins de l'allemand BioNTech, coproduits avec l'américain Pfizer. L'Allemagne a financé BioNTech, mais elle n'a pas inclus, elle, de clause Europe d'abord, Europe first. L'Union européenne exporte aussi des doses de Pfizer vers le Royaume-Uni, vers le Canada aussi, alors qu'il y a des usines de fabrication du vaccin juste de l'autre côté du lac Supérieur, dans le Michigan. En tout cas, AstraZeneca n'est pas le seul concerné.
Effectivement. Maintenant, en ce qui concerne le calendrier vaccinal pour ce qui est de l'Europe, on a eu des retards en début d'année de Pfizer qui depuis se sont complètement réglés. Je sais que Pfizer va livrer beaucoup plus de vaccins que prévu, enfin beaucoup plus, dans une certaine proportion, plus de vaccins que prévu à l'Europe dans les semaines qui viennent. En revanche, la problématique reste essentiellement concentrée aujourd'hui sur le fabricant AstraZeneca, ce qui d'ailleurs rend les relations européenne et britannique assez compliquées en ce moment.
Voilà, les entreprises américaines ont servi à fournir les États-Unis, les entreprises européennes à fournir le monde, écrivait ce week-end le journaliste américain Dave Keating basé à Bruxelles. Ursula von der Leyen a menacé samedi d'interdire toutes les exportations de vaccins vers les pays qui ne jouent pas le jeu ou qui ne rendent pas l'appareil. Est-ce que l'Union européenne a les moyens juridiques de le faire ?
Alors, a priori, oui. En tout cas, face à ces retards, c'est vrai qu'on a vu depuis janvier déjà, hein, Charles Michel, qui est le président du Conseil européen, qui avait déjà émis l'hypothèse de bloquer les exportations. On a eu Ursula von der Leyen qui a repris en fait ces menaces à son compte en affirmant pouvoir disposer de toutes les options pour assurer un accès au vaccin aux Européens, et il y a la possibilité de mettre d'utiliser en fait l'article 122 du traité de Lisbonne qui, au regard en fait de la situation économique et des problèmes d'approvisionnement, autoriserait l'Union européenne à réquisitionner les appareils de production, mais à aussi lever les barrières de propriété intellectuelle et d'imposer des restrictions à l'export. Donc c'est un petit peu ça qui se joue et qui va être discuté, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, au Conseil européen de cette semaine.
C'est vrai que la levée des brevets, la levée de la propriété intellectuelle sur les brevets, on en parlait il y a quelques temps, on n'en parle plus beaucoup.
On en parle à l'OMC, à l'Organisation mondiale du commerce, puisque l'Inde et l'Afrique du Sud avaient déposé une demande de levée des brevets pour l'ensemble des brevets sur tous les produits Covid. Cette demande a été suivie et soutenue par plus d'une centaine de pays à ce jour. Les discussions ont toujours lieu à l'OMC et vont reprendre dans les jours prochains. Et ce qui est assez étonnant, c'est que on voit bien que l'Union européenne, de son côté, menace de brandir, de lever en fait les barrières à la propriété intellectuelle, et s'oppose dans le cadre de l'OMC à la requête qui a été faite par l'Inde et l'Afrique du Sud. Or, on voit bien que les pays en développement, hein, qui soutiennent massivement cette demande-là de lever des brevets, cherche à répondre à un problème de production mondiale. Et en fait, dans l'exemple que l'on est en train de vivre aujourd'hui en Europe, et en particulier du coup en France aussi, on voit bien que c'est la question de la production et de la volumétrie de la production qui est au centre des enjeux et qu'il faut essayer de régler. Et donc, la levée des brevets n'est pas suffisante, elle devrait s'accompagner d'un partage des savoir-faire, et c'est un petit peu ce qui est demandé aujourd'hui dans le cadre de l'OMC. C'est ce que s'apprête à faire l'Union européenne probablement cette semaine. Et étonnamment, on voit bien que l'Europe, sur ce sujet-là, est en pleine contradiction avec elle-même.
Parce que justement, l'Union européenne, elle avait mis un mécanisme de répartition des vaccins en place qui devait aussi bénéficier aux pays européens hors Union ou encore au continent africain. Est-ce que ce sont eux qui pâtissent le plus, ou en tout cas qui pâtissent aussi des doses manquantes? Autrement dit, les 30 millions de doses AstraZeneca que l'Union européenne a reçues au lieu de 90, elle a dû les garder pour elle.
Effectivement, en fait, tout le monde va pâtir en fait de ces problèmes de production, puisque si vous regardez bien, les Britanniques aussi ont besoin d'avoir plus de production. Tout le monde est en train de se reporter vers le fabricant d'AstraZeneca qui est basé en Inde et cherche à valider les productions indiennes pour pouvoir les importer pour le coup en Europe. Or, ce fabricant-là est censé fournir la COVAX, qui lui est le mécanisme international qui a été mis en œuvre pour fournir les pays en développement. Et donc, les doses qui devraient être approvisionnées dans ces pays-là risquent, elles aussi, d'être retardées pour cause de qui paye le premier, reçoit le premier, en fait. C'est un petit peu ça. Et on voit bien que toute la logique du nationalisme vaccinal qui avait été très décrié depuis le début de la crise, en fait, hein, depuis le début des négociations, est à l'œuvre. Et ça va impacter, ça impacte le monde aussi, puisque si l'Afrique n'a pas de vaccin, par exemple, hein, l'Afrique ne peut pas se vacciner, on voit bien qu'on risque d'avoir des variants qui vont se déclarer. Et je rappelle que quand même, dans les stratégies européennes de vacciner 70% de la population d'ici l'été, au même rythme, on va avoir 3% de la population sur le continent africain qui sera vaccinée. Donc vous voyez bien qu'on va avoir de fortes inégalités en termes d'accès à la vaccination, ce qui ramène en fait, hein, sur le devant de la scène cette question de la nécessité d'augmenter les appareils de production et de partager autant que possible les savoir-faire et d'utiliser d'ailleurs toutes les capacités de production où qu'elle soit, pour pouvoir fournir le monde entier.
Alors notamment, comme vous le disiez tout à l'heure, en recourant à l'article 122, qui est une forme de réquisition des outils de production. Après tout, les États-Unis ne se gênent pas pour invoquer le Defense Production Act comme base juridique pour donner aux Américains la priorité sur tous les vaccins fabriqués sur le territoire américain. Au sein de l'Union européenne, les États membres ont aussi les moyens individuellement de le faire. L'Italie, par exemple, l'a fait récemment.
Oui, en fait, l'Italie l'a fait et a bloqué l'exportation de doses. C'est une quantité relativement faible, mais vers l'Australie. C'était à peu près 250 000 doses. C'est une goutte d'eau, en fait, par rapport aux 300 autres autorisations d'exporter qui ont été données. Mais c'était pour montrer qu'effectivement, il était possible de mettre en œuvre cette directive de restriction à l'export. Et l'Italie a reçu, bien sûr, été soutenue par l'Union européenne dans cette action-là. Donc on pourrait tout à fait, en fonction du développement de la situation, voir d'autres pays procéder de la sorte.
Voilà, et en deux mots, l'Union européenne est aussi en train de réfléchir à mettre en place, sur le modèle américain, du BARDA, un outil pour financer la recherche.
Exactement. En fait, on se rend bien compte que si on reprend tout ce qui s'est passé, beaucoup d'argent public a permis de financer en fait l'ensemble de ces vaccins, ce qui est un drame aujourd'hui puisque cet argent public ne se traduit pas dans un accès public large. Mais l'idée du coup de l'Union européenne, qui n'a pas de politique de santé, en tout cas, c'est de construire déjà sur des agences existantes et de renforcer en créant justement une agence de biodéfense, hein, d'innovation. Merci. Qui permettrait justement de favoriser la recherche et des partenariats publics-privés pour sécuriser non seulement de la recherche, mais aussi des productions, des appareils de production en cas de crise.
Merci beaucoup Nathalie Arnoux. Je rappelle que vous êtes chercheuse à l'IRIS. Crise sanitaire et économique, l'Europe a-t-elle décroché? Ce sera la question qu'Emmanuel Laurentin posera ce soir à ses trois invités dans le temps du débat à 18h20.